Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, les recherches des victimes de l'incendie se poursuivent dans le Vieux-Montréal. La mairesse Valérie Plante veut mieux s'en prendre au Airbnb. Une troisième victime, Dame Coui, succombe à ses blessures. Heureusement, ses organes sauveront trois personnes. Le fils de Daniel Brière, accusé pour avoir poussé un fauteuil roulant en bas des escaliers d'un bar. Et l'arrestation de Donald Trump serait imminente. L'Amérique retient son souffle.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Alors, depuis ce matin, les recherches ont repris dans les décombres de l'édifice William Watson Ogilvy, le bâtiment patrimonial de la place Duville, qui a été ravagé par les flammes la semaine dernière dans le Vieux-Montréal. On te parle toujours de 7 personnes qui sont disparues dans l'incendie et que seulement une dépouille, celle d'une femme, aurait été retrouvée.
Évidemment. J'ai compris aujourd'hui qu'ils ne peuvent, je pensais que les recherches étaient compliquées, mais ils ne peuvent carrément pas rentrer dans l'édifice. La structure intérieure est trop abîmée. Mais ils ont fait des recherches, entre autres, avec des drones.
Ouais, ils sont obligés de vraiment se rendre par personne là, dans le bâtiment. C'est presque impossible en raison aussi de la fragilité de la structure. On veut pas du tout entrer des pompiers, par exemple, à l'intérieur, tasser quelque chose et faire effondrer la structure, tuant ou blessant gravement d'autres pompiers. Donc aujourd'hui, là, on démantelait le deuxième et le troisième étage de l'immeuble avec un camion nacelle, des grues, d'autres équipements qui ont été déployés par les pompiers, les policiers.
Tout en vérifiant la présence potentielle de corps humain. Donc c'est toute une opération épouvantable.
Ouais, dans un brasier comme celui-là, là, on parle de scènes évidemment qui sont extrêmement difficiles. Là, si on devait retrouver d'autres corps, on comprendra en épargnant les détails qu'il risque d'être assez amoché et difficile à identifier par la suite. Là. C'est une raison pour laquelle on n'a pas confirmé l'identité de la femme qui a été retrouvée. On dit être en contact avec les victimes, là, les familles des victimes, des gens qui sont disparus.
Il y en aurait 6 autres des États-Unis, de l'Ontario et du Québec.
Ouais, États-Unis, Ontario et Québec, selon le David Shane, l'inspecteur du service de police de la ville de Montréal. Et on a dit que les autorités allaient faire un point de presse là, tous les matins à 8h, aussi longtemps qu'il le faudra pour informer la population et les familles de l'avancement des travaux dans cet endroit-là. On comprend qu'il y a 9 blessés également qui ont été faits là, dans toute cette histoire. Et au fur et à mesure qu'on en sait plus, des histoires d'horreur qui parviennent
de
gens...
Parce que c'est une histoire multifacette. D'abord, il y a potentiellement un acte criminel, ce qui serait épouvantablement grave d'avoir fait autant de décès et de blessés, etc. Il y a l'aspect sécurité du bâtiment. J'ai entendu qu'aujourd'hui, l'avocat du propriétaire, là, Elie Benhamor, est sorti. Lui dit que l'édifice était conforme, qu'il n'y avait pas rien qui était... qui n'avait pas été fait par exemple des travaux de la ville demandés ou qui n'a pas été exécuté. Il n'y avait rien de ça. Mais de l'autre côté, il y a tout l'aspect Airbnb là, qui fait que... Qui louait? Est-ce qu'on louait légalement? Est-ce qu'on louait illégalement? Là, en louant, on sait pas trop quand on vient pour faire le décompte après un incendie, on sait pas trop qui avait dans l'édifice, combien de monde il y avait par appartement. On a un portrait assez flou, là.
Ouais, et c'est difficile de le savoir, surtout que dans ce secteur-là de la ville, dans le Vieux-Montréal, on n'est pas censé pouvoir offrir des locations à court terme sur la plateforme Airbnb. Et donc, du côté de la mairesse de Montréal, qui réagit aujourd'hui, Valérie Plante, elle veut mettre plus d'inspecteurs pour gérer les locations d'Airbnb, notamment ceux, évidemment, qui se trouvent en location illégale, comme dans ce cas-là. On peut écouter un petit extrait de la mairesse ce matin.
On ne serait pas dans la situation actuelle si on avait une entreprise qui, elle, prenait toutes ses responsabilités et exigeait d'un propriétaire. Tu ne veux pas aller chercher ta certification? Tu ne peux pas afficher sur le site, tu ne peux pas louer. Et ça forcerait des gens qui veulent être dans l'illégalité et donc ne pas payer de taxes, mais en plus, plus facilement passer à travers le filet, ça serait non.
Oui, et elle a donc référé, entre autres, ben, au ministère du Revenu en disant que c'est eux qui ont la responsabilité d'envoyer des inspecteurs pour trouver les Airbnb. On comprend, Mario, qu'en 2023, trouver les Airbnb, savoir exactement qui, où, quand, comment offre ce genre de location-là, c'est compliqué pas mal.
Oui, et faut faire attention. Ils sont là, il faudra préciser la loi, mais ils sont pas nécessairement tous illégaux. Parce que tu peux. Ce que le gouvernement a voté la nouvelle loi, là, il a autorisé le Airbnb pour ta propre résidence, ta maison principale ou ta résidence principale.
Oui.
Donc, quand la ville rend un quartier en disant on veut pas d'Airbnb, ça le rend clairement illégal pour quelqu'un qui s'en fait une entreprise, qui a 6, 8, 12, 15, 20 logements. Mais si je me fais la nouvelle loi du gouvernement, puis là, tout ça est à préciser, mais si toi, mettons, t'as ton condo,
ouais.
OK?
Je décide d'aller habiter 3 mois en France.
Exact. Au Cube Radio, te délègue pour aller suivre les événements à partir de Paris.
Voilà.
Ben, tu pourrais décider de louer pendant ce moment-là. Et là, je pense pas que le règlement de la ville s'appliquerait à toi. Je pense que le gouvernement t'autorise à louer ton propre logement. Ou même si tu vas passer l'hiver en Floride, ou si peu importe quoi, ou même tu vas passer l'été, là, tu prends 3 semaines de vacances. Pendant ces 3 semaines-là, pour t'aider à payer tes vacances, tu loues ton propre condo. Alors, c'est tout ça là, qui est pas clair. Donc, t'as la sécurité, t'as les règles d'Airbnb. Et qui sont clairement pas respectés. Puis ça, c'est l'autre chose qu'on voit, que les règles d'Airbnb, c'est une joke. Il y a rien qui est respecté. Ça, c'est assez évident.
Ouais, c'est difficile, évidemment, là, de contrôler tout ça.
Je pense que les inspecteurs font...
Ouais.
Ils ont baissé les bras, là.
Ouais. Est-ce que les inspecteurs peuvent se promener dans Montréal puis tenter de trouver tous les Airbnb puis s'assurer que tous les règlements
sont
respectés?
Ils sont annoncés publiquement, là.
Oui.
Ouais, en tout cas. Mais la mairesse dit, elle n'a pas complètement tort. Elle dit pourquoi Airbnb, quand ils sont dans une juridiction comme le Québec, où ça te prend un numéro de certification, pourquoi c'est pas Airbnb qui exige le numéro de certification? Pourquoi c'est pas eux qui nous aident, le gouvernement, à s'assurer de la conformité? Enfin.
Retour sur le drame d'Amqui qui a désormais fait 3 victimes, 3 décès. Simon-Guillaume Bourget s'ajoute à la triste liste des personnes qui ont perdu la vie après avoir été percutées par la camionnette du chauffeur de l'endroit d'Amqui. Et donc, malheureusement, décédé. Il est en état critique depuis une semaine à l'hôpital Enfant Jésus. Et finalement, l'homme de 41 ans est finalement décédé. Et ce qu'on apprend aussi dans les dernières heures de par le père de Simon-Guillaume Bourget, c'est qu'il aurait sauvé la vie, ou plutôt va sauver la vie de 3 personnes différentes grâce au don d'organes maintenant qu'il est décédé. Tout ça a été livré dans un vibrant témoignage ce matin sur les réseaux sociaux. Sylvio Bourget a annoncé là, que son fils lui a quitté hier, apaisé et serein, qu'il est mort en héros. Donc ça s'ajoute malheureusement à la triste liste là, de Jean Lafrenière et de Gérald Charest.
Mais il était, selon ce que je comprends, c'était un collègue de Gérald Charest. Ils travaillaient ensemble dans une firme de paysagement.
Ouais, absolument. En fait, je pense que c'est son fils exactement là qui travaillait chez Bélanger. Non, il travaillait, c'est ça. Il travaillait chez Bélanger puis paysagiste.
Oui, c'est un collègue. Donc il y a 2 collègues de chez Bélanger paysagement qui ont été frappés. Donc on fait partie des victimes de l'accident.
Ouais, donc il faudra voir si l'accusé dans cette affaire, Steve Gagnon, va faire face à plus de chefs d'accusation par la suite, là, qui vont s'ajouter maintenant qu'une 3e personne qui est décédée. Et pour ce qui est des hospitalisations, là, il y a 3 autres personnes qui sont toujours à Québec. Il y a 2 personnes qui sont dans un état stable, mais il y a une autre personne qui, elle, lutte toujours pour sa vie, tout comme c'était le cas jusqu'à tout récemment, Simon-Guillaume Bourget.
Donc il y en avait 3 qui étaient en soi en critique. Il y en a une qui est passée à l'état stable, puis il y en a un qui est décédé. Il y en a toujours un dans un état...
Dans un état critique, évidemment.
Toutes nos pensées sont avec eux, mais si t'es encore dans un état critique une semaine après les événements, c'est que tu vas garder... Écoute, on souhaite que tu t'en sortes, mais c'est que tu vas garder des séquelles importantes. C'est que t'as des blessures très graves. En fait, je pense que celui qui est dans un état critique encore... C'est le père de la famille de 6. Le grand-père, en fait, des 2 enfants. Les 2 enfants sont sortis de l'hôpital. La mère est sortie des soins critiques. Mais le grand-père, lui, est encore, je pense, hospitalisé.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
L'entraîneur de soccer Félix-Antoine Bédard, qui avait déjà comparu le 24 février dernier pour faire face à plusieurs chefs d'accusation impliquant des victimes mineures, eh bien, est revenu en cour pour le dépôt de nouveaux chefs d'accusation. Et là, ça porte le total, Mario, complet à 55 chefs d'accusation de leurre, de production de pornographie juvénile, d'exhibitionnisme et d'avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à une trentaine désormais de victimes mineures. L'homme de 27 ans, donc, est revenu comparaître. Et les chefs d'accusation s'empilent, Mario, à un rythme effréné. On se souviendra, M. Bédard a été arrêté la fin février après une courte enquête. Lui s'impliquait au programme de soccer de l'Académie Saint-Louis. A été suspendu, bien évidemment, de l'ensemble de ses engagements professionnels. Depuis, mais là, on comprendra, sur les premiers éléments d'enquête, qu'il aurait utilisé les applications de réseaux sociaux pour entrer en contact avec des victimes mineures, aurait envoyé des photos sexuellement explicites à des jeunes filles, exhibé ses organes génitaux, aurait produit la pornographie juvénile. Donc, selon ces chefs d'accusation-là, ce qu'on peut comprendre, évidemment, c'est qu'il aurait reçu, ou donc dans ses échanges, des vidéos sexuellement explicites de jeunes mineurs. Donc, ça vient porter...
Non, 55.
55, trentaine de victimes mineures. Et rien n'exclut, bien évidemment, à ce point-ci, qu'il puisse en ajouter d'autres par-dessus tout ça. Donc, la couronne s'est opposée à la remise en liberté de l'accusé à nouveau. Il va devoir revenir devant le tribunal d'ici la fin du mois, ou peut-être, comme je l'ai dit, on ajoutera des accusations. On le souhaite pas, mais mon Dieu, c'est tout un nombre de chefs d'accusation qui viennent là, s'empiler contre cet entraîneur de soccer, ce qui prouve qu'on continue à attraper. Il y a toujours des coups de filet qui sont faits en termes là, de violence sexuelle envers les jeunes.
Pas, ça arrive, là, mais qu'un appel au public, un appel à d'autres victimes de la part d'un corps policier, il y a autant de réponses, c'est quelque chose.
Toujours dans les affaires judiciaires, les proches des victimes d'un triple meurtre qui a secoué la ville de Trois-Rivières en février 2014 ont dû s'opposer en témoignant là, à une demande de sortie qui est formulée par Cédric Bouchard, l'un des deux hommes coupables là, d'avoir commis ce triple meurtre en février 2014. On se souviendra, ils étaient âgés de 17 ans. Kevin Sirois et Cédric Bouchard ont écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Parce que c'est des meurtres, dit-on, d'une violence extrême. Mais voilà que Bouchard lui aurait demandé une permission de sortie escortée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Tout ça dans un but d'avoir des rapports familiaux. Il veut solidifier ses liens avec sa sœur et sa mère. Les proches des victimes, eux, ont dû se présenter aujourd'hui devant l'audience pour témoigner justement contre cette remise en liberté, cette remise en visite pour Cédric Bouchard. Ils ont témoigné entre autres en disant à l'accusé, au condamné à ce point-ci, que eux, leur famille, ben ils en sont privés. Lui souhaite voir sa famille, avoir des liens familiaux, mais ça c'est une possibilité dont ils sont privés maintenant qu'il a assassiné leurs enfants. Des témoignages qui ont eu l'air d'avoir ébranlé Cédric Bouchard, qui a désormais 26 ans aujourd'hui, qui se tortillait là, dans le box de l'accusé. Et donc, même si lui dit avoir pris conscience de la gravité de ses gestes 3 ans et demi après avoir été incarcéré, mais on dit que son cheminement carcéral est quand même chambranlant. On parle d'une fragilité importante dans la sphère émotive, des fréquentations et de la toxicomanie. Donc, son danger pour la population est toujours considéré comme élevé. Il y a toujours pas de décisions qui ont été prises pour le moment, mais c'est sûr que ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression là ces temps-ci sur la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui a été mise à mal dans les dernières années, Mario, dans les derniers mois, qui se retrouve devant toutes sortes de cas complexes comme celui-là. On peut s'attendre à ce qu'ils aient une décision assez difficile, merci, à rendre dans ce dossier-là.
Ouais, mais je comprends pas vraiment. C'est un motif. Moi, je suis souvent étonné. Oui, tu veux te rapprocher. Quelqu'un était visité en prison, t'étais mal les membres de ta famille, mais je comprends mal. Là. Je comprends en fait très, très, très bien la famille de réagir aussi vivement. Ça fait pas longtemps. Techniquement, moi, dans ma tête, il est au début de sa peine.
Oui, c'est certain que c'est qu'il avait 17 ans à l'époque. Là,
ouais,
c'est vraiment ça qui est venu jouer dans cette histoire-là. C'est bien un an de plus, lui et son complice dans cette histoire-là aurait pu écoper là, de prison. Disons que c'est tout un cas là, qui sera à suivre là, du côté de la commission.
Tout savoir en 24 minutes.
Peut-être que la publicité de Jean-François Roberge fait son effet, celle sur le faucon pèlerin qui est pas mal chill.
Ou bien c'est ma chronique de vendredi dans le Journal de Montréal.
Ou bien ta chronique de vendredi dans le Journal de Montréal.
J'ai pointé du doigt l'Air Canada parce que le CN jeudi avait accepté d'être soumise à la loi 96, la charte de la langue française.
Eh bien voilà que c'est fait, Mario. Ça a été annoncé cet après-midi, Air Canada qui annonce son inscription volontaire auprès de l'Office québécois de la langue française en vertu justement de la charte de la langue française. Ils disent à la suite de plusieurs mois de discussions avec l'Office. Donc, semble-t-il que c'est des discussions qui ont bien été.
Les premières discussions, ils avaient dit non. Là. Au mois de décembre, le gouvernement avait fixé une date limite et ils avaient été récalcitrants. Là. Le CN, Air Canada, quelques autres avaient dit, nous, là, on est à charte fédérale parce qu'ils sont pas... Écoute, ils sont pas obligés. Techniquement, là, ils auraient pu contester... Dire, nous, on est des entreprises de la charte fédérale, on n'est pas soumis aux lois québécoises, on n'est pas soumis à la charte québécoise de la langue française, on va attendre, le fédéral va nous faire sa loi sur les langues officielles, puis on verra. Mais là, ils ont décidé de... Au Québec, on va respecter la loi québécoise, c'est quand même... C'est une grosse victoire pour le gouvernement Legault.
Oui, absolument, et Air Canada qui a pas mâché ses mots dans son communiqué, Mario, qui dit...
Lis-moi ça, ça va me faire du bien.
Ben oui, voilà. À titre de plus important transporteur aérien du Canada, Air Canada est fier de son engagement à l'égard de la langue française au Québec et à l'échelle de son réseau mondial.
Pour aujourd'hui, on va laisser passer.
Voilà.
Comme c'est une bonne nouvelle, comme il adhère à la... Je répète encore, là.
Oui. Fier de son engagement à l'égard de la langue française au Québec.
J'ai rien.
Il y a de la suite dans le dossier du fils de Daniel Brière, Carson Brière. On se souviendra, là, suite à la publication en ligne d'une vidéo de caméra de surveillance d'un bar qui a été visionnée à ce point-ci, Mario, à l'heure où on parle, plus de 39 millions de fois.
Il savait pas, je pense, qu'il y avait une caméra de surveillance, hein?
Ben, c'est sûr qu'il savait une caméra. Peut-être qu'il aurait reconsidéré son choix de balancer un fauteuil roulant d'une jeune femme qui se rendait dans une salle de bain située au sous-sol, une femme avec un handicap, qui avait besoin, bien évidemment, de son fauteuil. Fait pas descendre, donc il y a eu de l'aide pour descendre dans des longs escaliers quand même, là, on peut le voir sur la vidéo du bar. Et Carson Brière, avec d'autres jeunes hommes qui étaient près de lui, dont Patrick Carosi, qui est un joueur de l'équipe de la Crosse de la même université que ce dernier, eh bien, a poussé le fauteuil roulant qui dégringole dans les escaliers, semble se briser.
Une bonne idée, là, quelque chose de brillant, très, très drôle.
Ouais, quelque chose, ça divise la population, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre,
Qu'est-ce qu'il a pensé?
Ben là, Carson Brière, déjà, à 23 ans, jeune hockeyeur de l'Université de Mercyhurst,
Il n'y a pas 13 ans, là. Il y a 23 ans.
Là, il devait déjà faire face au tribunal populaire, avait déjà été suspendu par son université, mais voilà qu'il va être inculpé relativement à son geste qui a été commis le 11 mars dernier. Va devoir se présenter avec Patrick Carosi devant un tribunal d'Erie en Pennsylvanie le 22 mai prochain. Ils font face à des accusations de méfaits criminels et de conduite désordonnée. Plus exactement, on parle de propriété endommagée et complot criminel en vue de commettre un méfait. Donc, des termes qui sont extrêmement durs.
Le mot complot est un peu fort, là. Les deux niaiseux se sont parlé 4 secondes. Serait-tu drôle, moi, la chaise?
Ben, aux yeux de la justice américaine,
c'est un
de la
complot,
Pennsylvanie, semble-t-il qu'il y a complot.
Moi, j'ai résumé le complot. La chaise,
Ben, voilà le complot, Mario. C'est fait. Mais si, ce chef de méfait au deuxième degré et ils sont reconnus coupables de tout ça, mais ils font face à des peines d'emprisonnement quand même de 2 ans maximales, amendes qui peuvent aller jusqu'à 5 000 $.
Moi, je sais pas. Je pense qu'ils vont devoir plaider coupables. C'est filmé. La scène est hyper simple, claire, on voit tout.
Le complot est simple, tu viens de le résumer, Mario?
Oui, j'ai résumé. Non, mais le geste... À la limite, je pense qu'il dit... Il pourrait faire tomber qu'il y a un complot. Il pourrait dire, regarde, j'ai posé un geste, c'est ça, puis plaider coupable à ça, puis essayer de négocier la peine la plus clémente possible. Probablement qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, il va pouvoir s'en sortir avec seulement une amende. Mais c'est toute une trace dans son CV, là.
Ouais, puis malheureusement, ça vient jeter une ombre sur les derniers accomplissements de son père. Hein. On rappellera que Daniel Brière, maintenant directeur général, déjà intérimaire des Flyers de Philadelphie. C'est bien dommage que depuis ce temps-là, on ne parle que de son fils.
Je pense que, pour vrai, là, Daniel Brière, il a pu célébrer à peu près 48 heures. Je pense qu'il faudrait vérifier les heures et les dates.
Ah, pas beaucoup.
Il a été nommé, puis je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain tout de suite que cette histoire-là est venue l'enfarger.
Économie.
Évidemment, demain, c'est jour de budget provincial. Et la veille du budget, le ministre des Finances, Éric Girard, a une tradition. Habituellement, il va s'acheter une nouvelle paire de chaussures de course, hein, parce que c'est un coureur. Monsieur Girard va toujours s'acheter des nouveaux souliers, de nouvelles baskets pour pouvoir faire son budget puis courir vers l'avant. Toujours un jeu de mots qui vient avec ça. Mais pas aujourd'hui, Mario. La tradition a été rompue. On a décidé de faire un don à un organisme communautaire. Cette fois-ci, c'est pour aider, entre autres, le centre communautaire Patro du quartier Limoilou, donc don de 10 000 $ pour les 75 ans de l'organisme. On a aussi parlé d'une enveloppe de 50 millions de $ qui va venir dans le budget pour aider le docteur Julien, qui était présent, le docteur Gilles Julien, à cette annonce. C'est fait avare de commentaires, pas voulu confirmer, entre autres, les baisses d'impôts qui ont été promises dans les derniers mois par le gouvernement Legault. Mais donc, c'est toujours la mise en bouche, le petit préambule qui vient avant le budget. Et c'est demain, Mario, qu'on va avoir plus de détails pour tout ça. À quoi tu t'attends?
Ben, sur ça, spécifiquement, là, je pense que si on fait la veille une annonce organisme communautaire docteur Julien, donc pour les enfants en difficulté, je pense qu'on veut installer l'idée, comme la nouvelle du budget, ça va être les baisses d'impôts. Il y a toujours cette idée. Bon, écoutez, c'est une évidence, ça veut dire il y a une partie de la population qui paye pas d'impôts. Mais s'il y a des baisses d'impôts, ils en profitent pas. Mais ça veut pas dire qu'ils sont victimes d'une injustice. Ils vivent dans une société où ils reçoivent tous les services puis ils payent pas d'impôts. Bon, mais peut-être qu'ils payent pas d'impôts temporairement. Ils ont peut-être perdu leur emploi l'année passée ou ils sont trop jeunes. Ils vont en payer plus tard. Peu importe, mais ils payent pas d'impôts. Mais là, je pense que le gouvernement veut quand même un peu contrecarrer cet argument-là en disant, ben, on oublie personne. Et même pour les plus démunis de la société, etc., on veut penser à tout le monde. Donc oui, il y aura des baisses d'impôts dans le budget, mais il y aura aussi des mesures pour aider les plus démunis, que ce soit les endroits où on fournit les popotes roulantes, les cuisines communautaires, les endroits où on remet des paniers. On va vouloir aider les plus démunis. Moi, j'ai vu un peu là de la prévention à la veille du budget, pas se faire accuser d'oublier les pauvres en donnant des baisses d'impôts.
Le Monde.
L'Amérique retient son souffle, Mario. C'est peut-être un terme très fort pour dire que l'inculpation de Donald Trump, sa possible inculpation, ben selon ses propres propos à M. Trump, à l'ex-président, ça pourrait bien être demain,
voire dans la semaine. Mais tu disais vendredi, avant même que ça sorte, il y avait des Américains qui avaient observé des choses. Hein?
Oui, parce qu'il y a eu plusieurs fuites, entre autres, là, de plusieurs gens qui sont bien au courant du dossier, entre les différents paliers des forces de l'ordre aux États-Unis, le FBI, la police, de l'État de New York, dans la police de Manhattan, ainsi que les services secrets qui semblent avoir eu plusieurs réunions. Vous me dites pourquoi les services secrets, le FBI? Parce que on se préparait à arrêter Donald Trump et c'est une logistique qui est extrêmement compliquée. Évidemment, en cause de tout ce qui l'entoure, on sait que ses partisans peuvent être extrêmement virulents, voire violents, suite évidemment à l'assaut du Capitole. On s'en souviendra du 6 janvier.
Mais aussi, c'est un ancien président. Là, il y a de la sécurité. Techniquement, les Secret Service le protègent.
Exactement. Les services secrets sont avec lui et le protègent jusqu'à sa mort, comme tous les anciens présidents. Et c'est là qu'on se rend bien compte qu'il faut qu'il y ait des réunions à tous ces gens-là si M. Trump venait à être accusé au tribunal à Manhattan. Tout ça dans cette histoire, une affaire de paiement en 2016 à une actrice de film pornographique, Stormy Daniels, avec laquelle il aurait eu une liaison. Et tout ça, ben, il pourrait lui mener à être arrêté. C'est un cas qui est juridiquement assez complexe. On veut déterminer s'il est coupable de fausses déclarations, entre autres, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, comme c'était tout juste avant l'élection de novembre 2016 pour taire cette relation extra-conjugale. Il aurait fait payer par son avocat 130 000 $. Or, la semaine dernière, son ancien avocat est allé témoigner devant un grand jury. Stormy Daniels elle-même est allée elle aussi témoigner et on aurait invité M. Trump lui-même à se présenter devant un grand jury. Mais qu'est-ce que ça fait ça? C'est qu'habituellement, on ne demande pas à la personne en examen de passer devant un grand jury à moins qu'on veuille l'inculper formellement. Et là, mais ce qui pourrait se passer, c'est qu'à New York, on pourrait faire venir M. Trump, qui habite en Floride, je le rappelle, jusqu'à New York
pour qu'il y ait, ben, ni plus ni moins qu'un état d'arrestation temporaire. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'il serait très, très symboliquement placé quelques instants en état d'arrestation, il serait photographié, on prélèverait ses empreintes digitales, là, comme à n'importe comme quelle personne. Comme un prévenu. Il pourrait même être menotté quelques minutes si les choses s'avèrent, puis si on suit un protocole complet. Évidemment, tout ça va être extrêmement, extrêmement délicat à gérer en raison de la virulence de ses partisans. Mais on comprend qu'en ce moment, même à New York, veut pas, même si on confirme rien, il y a des clôtures aujourd'hui, toute la journée, des barrières de métal qui ont commencé à être installées par les forces de l'ordre tout près du palais de justice à Manhattan, ce qui pourrait bel et bien dire que dans les prochains jours, demain, comme le disait M. Trump, peut-être, on ne le sait pas, il pourrait être officiellement mis en état d'arrestation.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.